C'est le village fantôme, je peux même te donner le nom. Il s'appelle Kolmanskop. Voilà.
Kolmanskop, je crois que ça se dit comme ça.
J'ai fait mes recherches.
Mademoiselle Deray, je vais vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé.
Intégralement pas filmé, un podcast présenté par Alice Lavigne et Quentin Albo.
Vous êtes beau, vous êtes prêts ?
Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de la saison 2 d'Intégralement pas filmé. Comme à l'accoutumée, je suis accompagnée du merveilleux, du pailleté, du coloré Quentin Albou. Comment vas-tu Quentin ?
Bonsoir, je suis très coloré.
Et très pailleté.
Principalement coloré de noir aujourd'hui.
Ah, mais ça va quand même ?
Je suis sombre. Ça va très bien, écoute, très très bien. Alors Alice, cette semaine pour ma part, je veux vous parler de « À tous les garçons que j'ai aimés, je vous aime toujours » qui est sorti vendredi dernier sur Netflix.
Moi, je vais vous parler du tout nouvel album de Tame Impala qui s'appelle « The Slow Rush » et qui est sorti vendredi dernier sur toutes les plateformes.
Et enfin, on va vous parler d'une série audio produite par Spotify qui s'appelle « Le Nuage ».
Eh ben écoute, ça m'a l'air très sympa tout ça, Quentin. Mais avant toute chose, est-ce qu'on n'irait pas sur une petite toile ?
Et bah cette semaine, je te propose d'allumer ta box, de te mettre sur Netflix et de t'allonger dans ton canapé. On y va.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Alors comme je vous l'ai dit en sommaire, cette semaine, je vous parle de « À tous les garçons que j'ai aimés » volume 2, PS, je vous aime toujours, qui est sorti vendredi dernier sur Netflix. Un film de Michael Fimognari, avec notamment Lana Condor dans le rôle de Lara Jean, Noah Centineo dans le rôle de Peter... et Jordan Fisher dans le rôle de John Ambrose McLaren.
Mais du coup, tu dis que c'est le volume 2, mais je m'en souviens plus très bien. Il parlait de quoi, le volume 1 ?
Merci Alice de me le rappeler. Pour ceux qui n'ont pas vu « À tous les garçons que j'ai aimés 1 », il parle de Lara Jean, une étudiante au lycée d'origine coréenne qui a l'habitude d'écrire des lettres d'amour à tous les garçons pour qui elle a un crush, donc qui est une habitude assez 1980, je trouve. Sa petite sœur va envoyer les lettres à tous ces garçons.
La vilaine.
Sans qu'elle le sache, la vilaine. Mais au final... vu que c'est une comédie romantique, tout va bien se passer, puisque ça va l'amener à sortir avec Peter Kavinsky, le beau gosse du lycée qui joue au lacrosse, comme tous les beaux gosses américains.
Lacrosse.
Et du coup, voilà, ils vont faire une fausse relation qui va se transformer en une vraie relation. Mmh. Et donc à la fin, on les quitte plus amoureux que jamais.
Ok, bah merci pour ce rappel bien utile.
Alors, oui, cette semaine, je fais mon petit coming out, j'adore les... comédie romantique, je suis un cœur d'artichaut, et du coup j'étais totalement ravi d'entendre le retour de To All the Boys I Love en version originale. Le premier m'avait plu parce que, évidemment, c'était une comédie romantique totalement naïve, totalement innocente et très mignonne.
Ouais.
Et dans ce second volet, on apprend que l'un des prétendants auxquels Lara Jean avait envoyé sa lettre malencontreusement, lui a répondu qu'il l'aimait aussi en sixième et que c'est trop mignon. Et du coup, il redébarque dans sa vie alors qu'elle est avec Peter. Donc Lara Jean voit ses sentiments chamboulés, voit son cœur battre la chamade, et donc tiraillée dans ce triangle amoureux, est-ce qu'elle va choisir Peter, est-ce qu'elle va choisir John Ambrose McLaren, qui a un nom très américain et beaucoup trop fake, et bah du coup vous le saurez en regardant sur Netflix. Et donc j'ai adoré ce film évidemment parce que c'est une comédie romantique et que j'aime toutes les comédies romantiques, mais j'ai adoré parce que non seulement c'est sans prétention, déjà et ça j'aime bien, tu vois les comédies romantiques qui assument le fait d'être des comédies romantiques à deux balles,
ouais.
J'aime bien. C'est aussi très bien traité sur le plan de la culture, parce que du coup, l'héroïne principale est de culture coréenne. Et on a toujours ces petits clins d'œil à la culture coréenne que je trouve super intéressant et très inclusif, tu vois, dans des films américains. On a aussi ce triangle amoureux qui rend le film beaucoup plus intéressant que le premier, par exemple. Qu'on avait déjà un peu avec le voisin, qu'on ne voit plus d'ailleurs dans le second volet, je sais pas pourquoi. Mais voilà, ce triangle amoureux avec le John Ambrose McLaren qui joue du piano, qui connaît plein de livres, qui s'y connaît en politique, il est trop intéressant. Et du coup, ce mec-là face à Peter Kavinsky, juste le beau gosse, tu vois, qui est un peu cœur tendre, mais sans plus, ça rend le truc assez intéressant. En tout cas, ça tient les 1h42 de film, donc c'est sympa. Et on a aussi les seconds rôles qui sont toujours aussi intéressants. Donc par exemple, l'ex de Peter Kavinsky, Gwen, qui est toujours la reine des beach. On a aussi la meilleure amie de Lara Jean, qui est toujours la punk suprême, trop drôle. Et on a une nouvelle qui s'appelle Stormy.
Stormy comme dans les Wings.
Ouais, Stormy comme dans les Wings, comme la méchante des Wings, qui est une résidente de la maison de retraite où Lara Jean fait du bénévolat, qui est très drôle et très sympa et qui fait un peu le rôle de la sagesse, tu vois. Quand Lara Jean a une question d'amour, bah elle va vers Stormy parce que Stormy elle a tout vécu, elle a tout vu. Et donc voilà, donc je vous conseille ce film parce que ça, déjà ça passe le temps un dimanche après-midi. C'est très mignon, c'est très intéressant, c'est pas tout naze, comme toutes les comédies romantiques. C'est vraiment bien traité, il y a vraiment des bons personnages qui sont bien écrits. Et la réalisation aussi est très sympa. Il y a des très beaux plans, notamment dans la maison de retraite où ils font une soirée hyper stylée. Donc voilà, donc à tous les garçons que j'ai aimés, PS, je vous aime toujours. 1h42 sur Netflix, c'est rapide, c'est efficace, c'est très accessible. Contrairement à tous les films que je recommande d'habitude où il faut aller au cinéma payer 10 balles, là c'est accessible, c'est sur Netflix.
Mais du coup... T'en as dit tellement de bonnes choses, moi je vois. Comment ça se traduit en quint ? Tu lui mets combien sur 5 ?
Alors, comment ça se traduit en quint ? Ça, c'est la question très compliquée, parce que j'ai pas envie de surnoter ce film, alors que j'ai mis des mauvaises notes à des bons films de cinéma. Le problème de la plateforme, ça me fait un peu galérer pour noter. Mais du coup, vu que c'est un bon film que j'ai apprécié, qui passe bien le temps, qui est pas trop long, qui est pas tiré en longueur, et qui est feel good, je vais lui mettre 3 sur 5.
Bah, c'est honorable, hein.
C'est très honorable.
Ouais.
Voilà, parce que c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Hein. On va pas déconner. Du coup, après toutes ces belles choses que j'ai dites sur le cinéma netflixien, je propose que nous allions faire un tour dans ta playlist, Alice.
Bah écoute, allume les amplis, dégaine ton tourne-disque, et on y va.
Vous aimez Mozart ?
Oh oui. C'est lequel ?
Le dernier.
Alors cette semaine, je vais vous parler de The Slow Rush, qui est un album de Tame Impala, qui est un album que j'attendais depuis très très longtemps. Il me semble même que dans la cérémonie des IPF d'or, j'ai dit que c'était l'album que j'attendais le plus de 2020.
Effectivement, tu as tenu ces propos.
Voilà, donc je me devais d'en parler. Il est sorti vendredi 14 février 2020, donc il y a quelques jours, et c'est un cadeau de la Saint-Valentin de Kevin Parker à nous. Je dis Kevin Parker et non Tame Impala, parce que en fait Tame Impala, ce n'est pas un groupe, c'est un projet musical d'une personne qui s'appelle Kevin Parker. Donc quand il se produit sur scène, il y a des musiciens derrière, mais à la source, Tame Impala, c'est une personne. Tame Impala... Il n'y avait pas eu de musique depuis 2015, et surtout, donc en 2015, il avait sorti un album qui s'appelle Currents, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, parce que cet album est devenu genre un phénomène, un truc ultra viral. Enfin, il était déjà connu avant ça, il avait déjà fait deux albums avant ça, mais celui-là, c'est celui qui l'a vraiment genre, projeté sur la scène internationale. Et après ça, il a mis en pause le projet Tame Impala, donc le gars... Il était au sommet de sa carrière et il a dit « Bah non, je vais faire des trucs pour moi, mais en gros, je veux pas surfer sur la vague du succès de Tame Impala et faire un truc juste pour faire un truc. » Donc il a dit « Je reviendrai, je sais juste pas quand et pas comment. » Donc bon, j'ai pris mon mal en patience et j'ai attendu. Et il a donc annoncé cet album pour 2020. Je rappelle, il s'appelle « The Slow Rush ». La couverture est très très belle, je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, très artistique.
C'est une maison, enfin c'est l'intérieur d'une maison. Les murs sont rouges, il y a des grandes fenêtres où on voit un ciel bleu. Et surtout en fait la maison est remplie de sable comme si elle était abandonnée. Et en faisant mes petites recherches, j'ai vu que c'est une vraie maison qui existe et qui est située dans un village fantôme en Namibie.
Eh bien.
C'est le village fantôme, je peux même te donner le nom, il s'appelle Kolmanskop. Voilà.
Kolmanskop, je crois que ça se dit comme ça.
J'ai fait mes recherches.
Visuel quoi.
Et donc c'est un album, encore une fois, c'est une musique qui est très difficile à décrire. Souvent on décrit la musique de Tame Impala comme pop-rock psychédélique. Mais il y a un peu d'électro, c'est un mix de plein de choses, mais ce qu'il faut retenir, je pense, c'est plus pop-rock et psychédélique. C'est un truc très chill.
Ouais.
Du coup, je t'avoue que donc je l'attendais depuis très longtemps, depuis 5 ans, cet album. Et puis surtout, l'album de Currents, comme tout le monde, je l'ai adoré. Donc forcément, je me suis dit, est-ce qu'il peut faire mieux ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va faire un album pareil ? Est-ce qu'il va, au contraire, changer beaucoup ? Enfin, tu vois ? Comment tu rebondis après le meilleur album de ta carrière ?
Ouais, bah c'est dur. Hein.
Et ben pour moi, c'est une réussite. On reconnaît le style de Tame Impala. Il a pas voulu changer complètement. mais il a innové sur son son, je trouve. Il a fait des sonorités qu'on n'entendait pas habituellement chez lui, mais quand t'écoutes, t'es pas perdu. Tu sais, tu restes dans le monde de Tame Impala, c'est juste, il a ouvert une nouvelle porte. En gros, c'est comme
ça. Tame Impala, version 2.0, quoi.
C'est ça. Et moi, en fait, c'est ce que j'attendais. C'est que je voulais pas être trop secouée dans un nouveau style, mais je voulais qu'il innove un petit peu. C'est ce qu'il a fait. Bon, après, dans cet album, il y a des chansons qui gardent l'empreinte Tame Impala à fond, comme la chanson On Track, qui est très très stylée, que j'aime beaucoup. Et ça, c'est pour moi une chanson qui aurait pu être sur Currents. Mmh. Elle a tous les ingrédients de la recette de la chanson Tame Impala. Donc moi, j'adore. Je voudrais quand même préciser, donc j'ai dit que Tame Impala, c'est Kevin Parker, mais pour que ce soit clair, Kevin Parker, il écrit, il enregistre, il interprète et il produit, il fait tout.
Donc c'est sa musique, quoi.
C'est ça, il fait tout depuis son studio qui est dans sa maison en Australie, puisqu'il est australien.
Une Australian.
Et il fait tout. Il fait l'écriture de la musique, des paroles, enregistrer la musique, produire et il chante. Et d'ailleurs, il a une voix très spéciale, très agréable à entendre. C'est aigu, mais très doux, très aérien. Il a une voix ultra planante, je trouve. Mm. C'est vraiment la musique de gros hipster que j'adore. Bon, en même temps, quand tu dis musique psychédélique, avoir une voix de gros rocker, tu vois, c'est pas possible. Pour teaser son album, il avait sorti quelques singles. Il avait notamment sorti la chanson Borderline, qui est rapidement devenue ma préférée, voire une de mes préférées de tout son catalogue. Elle est vraiment géniale, cette chanson. Et donc, cette chanson allait être dans l'album. Normal, vu que c'était le premier single de l'album.
Effectivement.
Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre que il a réenregistré la chanson Borderline.
Oh.
Ben, je préfère l'original. Mais en même temps, l'original, je l'écoute depuis qu'il l'a sorti. Donc, ça devait être novembre, décembre, quelque chose comme ça. Celle-là est sortie donc le 14 février. Donc il n'y a pas longtemps. Et du coup, je pense qu'il me faut un petit temps d'adaptation parce que l'autre, je l'ai tellement saigné que quand j'entends la nouvelle, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque.
C'est peut-être pas que tu l'aimes pas, c'est peut-être que c'est pas ce à quoi t'es habitué.
C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas un changement majeur qu'il a fait, c'est juste qu'il a modifié quelques tempos, il a monté la basse et il me semble que c'est une basse de synthé et non une basse basse. Et il l'a raccourci de 30 secondes, je crois. Et du coup, il y a certains moments qui me manquent. Par exemple, tout bête, mais au début de la chanson originale, il fait une espèce de vocalise en A au tout début. Et c'est trop agréable. Et il l'a supprimé dans celle-là. Donc quand la chanson a commencé, tu sais, j'ai l'impression qu'on avait coupé le début. C'était trop bizarre.
Ouais.
Mais c'est une super belle chanson. Je ne vais pas dire que je déteste la nouvelle version parce que elle ne change pas énormément de l'original, mais c'est juste que je suis tellement attachée à l'original que bon, il va falloir que je m'y habitue. Mais en tout cas, Borderline est une très très belle chanson. En parlant de très belles chansons, je voulais parler de la chanson Posthumous Forgiveness, qui est une autre chanson qu'il avait sortie pour teaser son album. Et j'ai pensé à toi d'ailleurs, Quentin, puisque cette chanson dure plus de 6 minutes.
Ah l'enfoiré.
Et je connais ton amour.
Encore un court métrage.
Pour les longues chansons. Mais il y a un mais, et tu peux en attester vu que tu l'as écouté.
J'ai menti, j'ai bien aimé.
Certes, c'est une chanson de 6 minutes, mais si vous l'écoutez, en fait, c'est deux chansons en une. C'est-à-dire qu'au bout de 3 minutes, le tempo change complètement, toute la musique change, et donc on est dans la même chanson, mais on a l'impression qu'il a collé deux chansons en une.
Il y a même une rupture si... Tu vois, genre, moi, j'ai bugué. Au moment où le truc change de tempo, j'ai regardé mon tel en mode, bah, c'est déjà fini. Et en fait, non. Juste, c'était le truc change de chanson, limite.
C'est ça.
Et du coup, encore une fois, je me dis, pourquoi ne pas faire deux chansons, tu vois ?
Eh ben, j'ai la réponse à ça.
Oh, mais c'est parfait.
Et oui.
Et c'est pas prévu, on n'a rien prévu, hein.
Eh ben, cette chanson, c'est une chanson qu'il adresse à son père. Donc, Posthumous Forgiveness... C'est un pardon posthume, puisqu'en fait, donc son père, il avait des relations très conflictuelles avec lui, et donc Kevin Parker lui en a toujours voulu, sauf que, entre-temps, son père est décédé. Et donc la première partie de la chanson, les 3 premières minutes, c'est en gros toute la colère qu'il ressent vis-à-vis de son père.
Ouais, c'est des reproches, quoi.
Complètement. Et la deuxième partie de la chanson, il y a la rupture. Et d'ailleurs, la deuxième partie est beaucoup plus douce que la première, je sais pas si t'as remarqué.
Ah bah, clairement, ouais.
Mmh. Et la deuxième, c'est en fait lui avec le recul qui dit « J'étais trop jeune, je pouvais pas comprendre, j'étais pas dans ta tête, toi aussi t'as dû traverser des choses compliquées. » Donc en gros, c'est son pardon posthume à son père. Et du coup, c'est vachement intéressant et je comprends pourquoi il a fait ces deux chansons en une. Parce que t'as un cheminement du début de la première partie de la chanson à la fin de la deuxième où tu sens un peu sa mentalité au fur et à mesure qu'il digère un peu la situation. Et c'est vachement intéressant.
Ouais, il y a la transition lente vers le pardon qui se fait et tu le sens, ouais, j'avoue.
Après, je voulais parler des nouvelles chansons, celles qu'il n'avait pas sorties avant. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment sorties du lot. Il y en a une qui s'appelle Breathe Deeper, qui est ultra funky. Genre, il y a beaucoup de groove dans la chanson.
Groovy, groovy.
C'est super agréable à entendre. Et je crois qu'il a dit... j'ai vu, d'ailleurs, si vous avez Spotify, faites l'expérience. Allez écouter l'album sur votre téléphone, sur l'application Spotify. Et quand vous descendez, en fait, vous avez le player de la chanson. Et juste en dessous, il y a, sous la forme un peu genre story Insta, il raconte un peu la genèse des chansons. J'ai découvert ça tout à l'heure. J'ai trouvé ça trop chouette.
Ah ouais?
Et sur celle-là, il disait qu'en gros, il s'inspirait un peu du style de la musique de Mariah Carey. Tu sais, un peu genre R&B, groovy et tout. J'ai trouvé ça grave marrant. Celle-là est très chouette. Il y a du piano aussi. Et je voulais conclure avec, parce que j'ai beaucoup d'humour, la première chanson, qui s'appelle One More Year. D'ailleurs, je pense que c'est calculé. La première chanson s'appelle One More Year et la dernière s'appelle One More Hour. Et cette première chanson, je trouve que c'est une très bonne chanson pour ouvrir cet album parce que ça commence sur de la distorsion de voix très chelou. Kevin Parker disait que c'était, pour lui, il le voyait comme un espèce de chant grégorien assez chelou. Et donc ouais. c'est une voix qui dit One More Year mais de façon très robotisée. C'est bizarre. J'adore, c'était Tame Impala.
Bah, moi, j'ai pas du tout aimé.
C'est spécial. Au moins, tu rentres dans le truc, quoi. Enfin, c'est la première chose que t'entends de l'album. Premier album en 5 ans, t'entends ça. Ça marque.
Bah, ouais, ça marque, c'est le mot.
Et ça fait très estival comme son. Du coup, la sortie de cet album, la fin de l'hiver, début du printemps, c'est vachement bien trouvé.
Ouais, une ambiance un peu festoche.
C'est ça.
Mais du coup, si tu as tellement aimé cet album et que tu es tellement heureuse de retrouver Tame Impala, combien de petites têtes d'Alice sur 5 tu lui mettrais ?
Alors déjà, je ne mettrais pas 5.
C'est une première.
Je vais parler parce que j'ai pas la note dans la tête. Donc je vais parler pour combler. c'est un très bon album et je trouve qu'il a super bien rebondi face à Currents. Je trouve que les deux albums se complètent. Mais sont pas identiques.
Ouais.
Donc je pense on va partir sur un 4,8, tu vois.
Ah oui, donc c'est pas 5, mais on est vraiment pas loin, quoi.
Ouais, c'est juste parce que j'ai les nerfs pour Borderline, tu vois.
Tu restes dans tes standards.
C'est ça. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour Tame Impala. Du coup, est-ce qu'on passe pas à la reco de la semaine ?
Alors cette semaine, comme on vous l'a dit encore une fois en sommaire, je le répète à toutes les chroniques, comme on l'a dit précédemment, on va vous recommander une série audio pour la deuxième fois dans ce podcast, et c'est toujours diffusé sur Spotify. Par contre, Mea Culpa, c'est une coproduction Spotify Nouvelles Écoutes.
Wow.
Donc vous connaissez peut-être Nouvelles Écoutes pour tous les podcasts qu'ils ont dans le monde de l'audio, comme par exemple Quoi de Meuf, Impatiente, Canon sur la Tempe, Queer, Splash et plein d'autres podcasts. Donc Le Nuage, c'est une série réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec au casting dans les rôles principaux, les leading roles, Emmanuel DeVos qui jouera Julia Roche-Rivière et Damien Bonnard qui jouera Mathias Carnot. Est-ce que tu as envie de nous pitcher un peu cette série audio, Alice ?
Avec grand plaisir. Alors, le 25 août 2020, un accident se déclare dans l'une des plus vieilles centrales françaises, le Douvray, près de Lyon. Julia Roche-Rivière, directrice de la centrale, va tout tenter pour protéger la population du nuage radioactif. Mais sur sa roue se dresse plus puissant qu'elle. À écouter au casque pour une expérience sonore optimale. Voilà.
Très beau pitch et très bien résumé.
Merci. Merci beaucoup. C'est pas moi, c'est la description Spotify.
On aurait presque dit que c'était un synopsis.
On aurait presque dit que c'était la description de la série sur Spotify.
Oh, peut-être, c'est vrai que c'est leur style. Alors ce podcast, je pense qu'on peut lui attribuer tous les mérites qu'on attribue à l'employé en termes de réalisation.
Mm-hmm, ouais.
Encore une fois, c'est très bien fait, le mixage audio est nickel. Mm-hmm. T'es vraiment dans l'ambiance, t'as vraiment tous les petits détails. On sent encore que les moyens techniques étaient mis en place. J'ai par exemple sous les yeux une photo des deux acteurs principaux qui ont des micros sur le front, scotchés.
Sympa.
Et c'est très drôle. Tu sens que t'es vraiment immergé dans la série et donc c'est hyper agréable à écouter en termes techniques. Après, en termes scénaristiques, Alice, qu'est-ce que t'en penses ?
Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le principe, l'histoire. C'est super intéressant, c'est un mystère. Ouais, je pense, on peut dire, c'est un mystère. Et je pense qu'après le pitch, vous, comme moi, vous devez vous dire, mais ça ressemble énormément au pitch de Tchernobyl, puisque je pense que vous avez tous entendu parler de la série Tchernobyl qui avait été faite par HBO, qui est une merveille.
Une pépite.
J'ai adoré cette série. Elle est vraiment géniale. Et du coup, c'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Mais pour autant, c'est pas du tout une mauvaise série audio quant au scénario. Les critiques se feront après sur autre chose. Mais si on se focalise sur l'histoire, en tout cas, c'est très intéressant. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils vont direct, ils vont droit au but. C'est, ouais. Les épisodes durent une vingtaine de minutes. Il y en a 5. Donc, ils n'ont pas essayé d'allonger le truc pour faire une énorme série. Ouais, c'est clean comme format. Je trouve ça chouette. Ça mérite pas beaucoup plus, mais donc au moins ils ont été réglo sur le format, ça c'est cool.
Ouais, après 5 épisodes, je pense que c'est vraiment pour l'instant, parce que toi t'es pas encore allé au bout, mais la fin, elle reste en grand suspens, quoi. Tu sens qu'il va y avoir une suite.
Ouh.
Après, moi aussi j'ai adoré, et pour le coup, tu vois, moi j'ai pas regardé Tchernobyl parce que je suis une merde.
Ah, il faut.
Grosso modo, c'est ça l'idée. Même si tout le monde m'a dit que c'était génial, j'ai pas pris le temps de la regarder et je vais le faire un jour. Hein. Et du coup, moi j'ai vraiment été impressionné par le scénario et par à quel point ça a l'air réaliste.
Mm-hmm.
L'interventionnisme de l'État et tout dans la catastrophe, tu vois, tout ce côté politique, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et j'ai aussi trouvé que l'histoire était très bonne. C'est un récit d'anticipation, tu vois, tu sens vraiment que ça peut arriver. Et que si ça arrivait, ça se passerait comme ça, je pense. Et du coup, ça te fait vraiment remettre en question toute cette question du nucléaire. Et pourtant, ça prend pas parti. Je sais pas ce que t'en penses, mais en même temps, ils disent... Il y a une catastrophe possible de ouf, ça explose et c'est la merde. Et en même temps, ils disent pas, on peut se passer du nucléaire, franchement. Tu vois, ils montrent bien que c'est nécessaire et que pourtant c'est dangereux. Donc ce côté-là, j'ai trouvé ça hyper intéressant de pas prendre parti dans le débat. Ensuite, il y a quand même un gros point noir qu'on va soulever. Alice, je te laisse le dire parce que vraiment, toi, ça t'a beaucoup plus dérangé que moi.
Ouais, alors donc comme on a dit, niveau technique, c'est nickel. Niveau scénario, c'est nickel. Sauf qu'il y a un énorme truc qui pêche. C'est le jeu. C'est-à-dire que je pense que les acteurs sont bons, mais ça s'entend qu'ils lisent leur script. Et donc, comme tu me l'as dit, Quentin, tu pourras le préciser, apparemment, ils ont fait cette série avec le script sous les yeux, qui est terrible, puisque forcément, tu as la feuille sous les yeux, tu vas lire, c'est obligatoire. Et ça, pour moi, ça s'entend qu'ils lisent beaucoup, et du coup, ça rend le résultat bien moins réaliste. C'est-à-dire qu'il y a des passages où un personnage devrait être genre ultra paniqué ou ultra en colère, et il sort des phrases ultra clean. Et du coup, c'est pas du tout réaliste.
Ouais, effectivement, c'est vraiment le problème. Donc, je l'avais dit aussi sur l'employé, que la comédienne Lou Howard, qui a joué dans le premier épisode de l'employé, avait dit dans un podcast que j'écoutais que justement, il jouait avec le script sous les yeux et que c'était extrêmement compliqué de s'en défaire. Ce que je peux comprendre. Mmh. Et c'est vrai que des fois, t'as des répliques du style « Mais enfin, monsieur le Premier ministre, ce n'est pas possible de réagir comme ça !» Tu vois, et du coup, tu sens vraiment qu'il découvre mot par mot, et c'est un peu compliqué. Mais après, c'est vraiment des bons comédiens, tu vois.
Genre,
tu vois, Emmanuel DeVos et Damien Bonnard, c'est pas des visages inconnus. Vous mettez leur nom sur Google, vous voyez leur tête, on les a déjà vus. Tu vois, c'est des vrais comédiens dans le paysage audiovisuel français. Mais pourtant, je pense vraiment que c'est un gros problème et que ça, Spotify et Nouvelles Écoutes qui ont produit la série devraient remettre en cause pour la suite. Jouer avec les scripts, ça a jamais été bon. C'est pas pour rien que ça se fait pas, tu vois.
Bah c'est ça. Et du coup, je trouve que ça les met absolument pas en valeur. Parce que comme on dit, c'est de bons acteurs. C'est pas des débutants, c'est pas des petits étudiants en théâtre, tu vois. C'est des bons acteurs et ça s'entend.
Puis en plus, le problème, c'est que c'est vraiment un parti pris de Spotify et Nouvelles Écoutes. Ils basent leur communication là-dessus. Mmh. On prend des vrais comédiens de cinéma et de théâtre français pour nos trucs. Donc c'est vraiment la publicité principale de leur série audio. Donc si ça marche pas, ça remet en cause tout le concept, en fait.
C'est ça.
Et ça s'était moins entendu sur l'employé, par exemple.
Je trouvais que sur l'employé, ça faisait beaucoup plus authentique, ouais. Moins lu.
Peut-être juste que ceux qui étaient sur l'employé, ils sont de meilleurs comédiens, tu vois, mais je pense qu'il y a aussi un problème de direction des comédiens.
Mmh. Ouais, c'est dommage. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, je pense que ça aurait été une superbe série.
Ouais.
Parce qu'il y a vraiment tout, comme on disait, il y a une ultra belle promesse derrière. Et c'est ça qui vient un peu gâcher le reste. Bon, c'est pas inécoutable, mais tu te dis, s'il n'y avait pas eu justement ce sentiment de lecture d'un script, ça aurait été vraiment parfait.
Ouais, non, pour le coup, c'est vraiment un détail. Parce que comme je disais, moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. Il y a vraiment des répliques où ça fait tiquer. Mais sinon, c'est franchement écoutable, c'est franchement fluide. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça remet pas en cause toute la série audio.
Non.
Mais c'est vrai que c'est un petit point noir qui fait chier, tu vois. C'est dommage.
Ouais, c'est vraiment dommage, ouais.
Ouais, c'est ça, c'est même pas énervant, c'est vraiment juste dommage. T'es un peu déçu.
Mm-hmm.
Tu te dis vraiment, ouais. Ça aurait pu être parfait.
D'accord, ouais.
Et ça ne l'est pas.
Et en plus, moi, comme je te le disais, je compare avec Tchernobyl. Et je pense que toute personne qui a vu cette série va comparer. Parce que c'est niveau pitch, niveau scénario, c'est la même chose. Et les acteurs de Tchernobyl sont tellement phénoménaux, ils sont vraiment exceptionnels. Je pense notamment à l'acteur principal Richard Harris, qui a délivré la performance de sa carrière. Il est incroyable. Et du coup, quand tu compares les deux, tu peux pas t'empêcher d'être ultra déçu.
Ouais, je comprends.
Par le nuage. Alors que ça aurait pu, tu sais, être l'alternative française à Tchernobyl, version podcast.
Bon, après, le point positif, c'est qu'une série audio, tu peux l'écouter dans les transports, trucs comme ça. Bon, une série aussi, maintenant, tu peux la regarder sur ton téléphone. Mais je trouve ça moins contraignant de juste mettre ses écouteurs, tu vois. Donc, je pense que là-dessus, ils ont raison parce que c'est un média qui n'a pas encore été pris d'assaut. Donc, ils ont cette chance-là de ne pas avoir trop de concurrence en termes de série audio.
Ouais.
Mais le jour où il y en aura, il faudra qu'ils changent leur truc, sinon ça ne va pas marcher.
C'est très vrai, ouais.
Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de notre avis sur cette série audio. Donc, je vous le rappelle, Le Nuage sur Spotify, exclusivement sur Spotify, pas comme nous. Donc je le rappelle, allez l'écouter et dites-nous ce que vous en pensez sur nos réseaux.
Bah écoute Quentin, je pense là on part sur une fin d'émission.
Malheureusement oui. Hein.
Ouais, comme toutes les bonnes choses ont une fin. Hein.
Ça déchire le cœur.
Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes divertis, que vous avez découvert de nouvelles choses peut-être, je l'espère. En tout cas, comme toutes les semaines, on vous le rappelle, vous pouvez nous suivre sur Instagram @intégralementpasfilmé, nous envoyer un mail @intégralementpasfilmé@gmail.com, réagir avec le hashtag IPFMIME, mime au pluriel parce que vous êtes plusieurs, vous êtes une énorme commu.
Une flopée.
Et vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast et j'en passe. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires sur Apple Podcast, nous mettre une note, ça fait plaisir, ça nous aide à être référencés. Voilà, merci.
Tellement d'informations à retenir en fin d'épisode à chaque fois.
Ouais.
Les pauvres.
Les pauvres.
À force de les marteler, ça va rentrer dans vos petits crânes. Alors n'oubliez pas mes petits mimes, pliez un petit peu le bout des doigts quand vous coupez des choses pour éviter de vous couper, assaisonnez bien vos plats, c'est très important l'assaisonnement, ça change des recettes, et surtout buvez beaucoup d'eau durant la journée. Et enfin, comme d'habitude, gardez la pêche, ciao !